Épisode 1, Montréal Nord, épicentre de la première vague. Réalisé par Josiane Cloutier, Carl James Acoupian-Étienne, Émilie Poulain-MacMillan, Noam Pistagnesi. The state's death toll doubling since Tuesday to more than 3,000. I want America to understand, this week it's going to get bad.
Wall Street continues to sell on those coronavirus fears, the Dow falling close to 900.
Nous sommes this week en guerre. Next week,
and there'll be a lot of death, unfortunately.
It's predicted this is going to get worse.
La dernière année n'a pas été de tout repos. La propagation fulgurante de la COVID-19 a bouleversé l'ordre du monde, freinant les économies et engendrant une crise sanitaire majeure. Avec plus de 50 millions de cas et 1,3 million de décès jusqu'à présent, la COVID-19 a durement frappé tous les pays du globe. Le Canada n'y fait pas exception. Montréal est rapidement devenu l'épicentre canadien de la maladie. Pourtant, tous les arrondissements de la métropole n'ont pas été touchés de la même façon. Montréal-Nord, un quartier bordé par la rivière des Prairies au nord et par la voie ferroviaire du réseau de transport métropolitain au sud, est rapidement devenu le pire foyer d'éclosion de la ville à la fin du mois d'avril. En juin, davantage de décès ont été observés dans ce seul arrondissement que dans toute la province de Colombie-Britannique. Pourquoi Montréal-Nord est-il plus vulnérable qu'un autre quartier? C'est ce que nous allons explorer dans ce balado. La direction de la santé publique de Montréal a mentionné, le 16 mai dernier, que les quartiers les plus défavorisés étaient 2,5 fois plus infectés à la COVID-19 que d'autres secteurs mieux nantis. Montréal-Nord est un bon exemple de cette tendance. L'arrondissement figure parmi les quartiers les plus pauvres du Canada et collectionne les facteurs socio-économiques défavorables, comme l'explique Christine Black, mairesse de Montréal-Nord depuis 2016.
Comme je l'ai dit tantôt, c'est sûr que Montréal-Nord est souvent frappé de façon différente parce qu'on est vulnérable. Et là, à ce moment-là, c'est là que rentrent en ligne de compte tous les déterminants de la santé. Donc, quand on parle des inégalités sociales, et dans le fond, on parle autant des infrastructures comme par exemple la densité, le fait qu'il y ait peu de parcs, qu'il y ait peu d'installations sportives, on en a peu, on a le plus bas indice de parcs à Montréal, que l'accès à des services de santé. On le sait, on a un secteur dans Montréal-Nord, c'est même dans l'est de Montréal, c'est des déserts médicaux. Donc, les gens ont peu accès à des médecins, ont peu accès à un suivi qui est soutenu et ont pas les moyens d'aller au privé, pas du tout. Et d'un autre côté, le milieu communautaire est présent, il est fort présent, mais avec des ressources qui sont limitées à cause des décors historiques. Donc, tout ça rentre en ligne de compte et en plus, ben, on a une population qui est défavorisée, qui n'a pas accès au niveau économique à des ressources importantes. On le sait, vous pouvez aller voir dans les statistiques, là, le salaire médian est très bas comparativement ailleurs sur l'île de Montréal. Que ce soit, entre autres, au niveau de l'état de santé des personnes, s'ils fument, s'ils consomment des drogues, s'ils s'alimentent bien, ben là, encore là, au niveau d'alimentation, on le sait qu'il y a des déserts alimentaires, donc très peu d'accès à des fruits et légumes frais, les épiceries sont loin, donc quand on n'a pas de ressources, des transports en commun. Donc, c'est tous ces éléments-là, quand on les met ensemble, qu'on se dit, OK, finalement, Montréal-Nord était hyper vulnérable par rapport à ça, parce que la santé de la population, de façon générale, est moins bonne, parce qu'au niveau des déterminants de la santé, on score fort, dans le fond, dans les problématiques.
Ces facteurs défavorables sont connus depuis longtemps. Cependant, la pandémie a mis un éclairage nouveau sur ces enjeux.
Ça a mis en lumière, en fait, toute la vulnérabilité d'un quartier comme, justement, Montréal-Nord, ou que ce soit par le tissu urbain, par la façon dont ça a été construit, que ce soit par les caractéristiques socio-économiques, socio-démographiques. Donc, c'est tout ça fait en sorte que ça nous rend plus vulnérables. C'est quelque chose que nous, on savait depuis fort longtemps, puis qu'on voulait démontrer, en fait, qu'on le faisait, mais qu'il y avait très peu d'écoute parce que, bon, le gouvernement a parfois d'autres enjeux ou d'autres éléments. Et puis, il y avait peu d'investissements. Il y en avait. Puis nous, à l'arrondissement, on essayait d'en faire le plus qu'on pouvait, mais notre budget est somme toute limité. Mais là, actuellement, c'est sûr qu'avec la façon que ça a frappé fort et que par la suite, tous les enjeux de coups de feu, de sécurité publique et tout, là, c'est comme si on se met un peu à nu devant tout le monde en disant, ben oui, on avait des conditions propices pour que ça arrive, mais là, on est dedans, donc il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe.
De nouveaux phénomènes ont même émergé. C'est le cas d'un campement de fortune installé dans un dépôt à neige sur la rue de Charleroi. Au plus fort de la pandémie, environ 6 personnes y ont résidé.
Que la recherche de logement en temps de pandémie, c'était vraiment pas évident pour personne.
C'est pas évident pour personne.
Pour vous non plus.
Il n'y en a pas.
Celui que vous entendez, c'est Alain Richer, une des personnes sans domicile fixe qui réside dans le campement de Montréal-Nord.
Si on voit le camp ici, là, c'est parce que les gens qui se sont trouvés en pleine pandémie, sans logement, se sont tous retrouvés en arrière de la bibliothèque. Parce qu'il y avait des bancs, qu'est-ce qu'on pouvait s'asseoir, tout. Les gens se sont trouvés là, puis quand le confinement il finissait, un peu avant, bien, le monde de bibliothèque, ils ont vu qu'il y avait du monde qui était là, puis il y en a qui dormaient dans les boîtes grises qu'il y a là, pour mettre les poubelles d'habitude, là, bien, il y en avait deux qui dormaient là-dedans.
Cette aura de défavorisation a aussi des impacts sur la vision qu'ont les citoyens de l'extérieur du quartier. Montréal-Nord a mauvaise presse, comme l'explique l'ancien étudiant à la maîtrise à l'Université de Montréal, Antoine Vogler, dont la recherche porte sur la stigmatisation de l'arrondissement.
On a réussi à prouver en fait qu'il y avait un article sur 4 dans l'échantillon global qui s'accentue d'abord et avant tout sur la thématique de la sécurité, donc les gangs de rue, meurtres, accidents de voiture. Mm-hmm. Puis ça peut être plus comme le Journal de Montréal, je pense que c'est 40% des articles.
Moins 46,
c'est ça. Radio-Canada, 50.
Les gangs de rue, majoritairement composés de personnes racisées, font partie de l'imaginaire collectif lié à Montréal-Nord, qu'on le veuille ou non.
L'histoire des gangs de rue, en fait, c'est que dans les années 80, il y a eu une plus grosse population immigrante haïtienne qui sont arrivés à Montréal-Nord. Puis après ça, il y avait des gangs de skinheads qui se sont mis, admettons, à attaquer des personnes noires, des personnes racisées. Puis après ça, les personnes racisées noires se sont mis ensemble. Puis, fait que là, quand les skinheads venaient les battre, ben, ils répliquaient. Mais là, quand la police arrivait, on a commencé à parler de gangs de rue parce qu'ils marchaient ensemble, tu sais. Mais la définition de gang de rue, juste le nom est weird, là. Est-ce qu'il traîne vraiment sur la rue? Non, là, t'sais. C'est juste que dès que tu vois un jeune racisé sur la rue, tu vas dire que c'est un gang de rue. Mais non, les gangs de rue, il n'y en a pas beaucoup first. Puis aussi, c'est que, tu sais, oui, il y en a, là, mais ils sont pas sur la rue. C'est que ce mot-là va stigmatiser tous les jeunes qui vont se tenir sur la rue. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans un logement. Ou juste parce qu'ils veulent chiller dehors comme tout le monde. Je veux dire, tu vas au parc Laurier, tu vas pas parler de gang de rue, mais tu vas au parc quand même voir ça. Puis il y a plein de noirs qui se tiennent ensemble, tu vas parler de gang de rue, mais c'est la même affaire.
Le confinement, mis en place à la mi-mars, a forcé des centaines de personnes à cesser leurs activités et à rester à la maison. Wilman Edouard est un entraîneur de basketball à l'école secondaire Henri Bourassa depuis plus de 20 ans. Il a aussi fondé la coopérative Multisport, qui vise à rendre les activités sportives accessibles à tous les jeunes, peu importe leurs conditions socio-économiques. Il a été témoin d'un isolement croissant chez les jeunes.
C'est sûr que l'isolement est un des premiers impacts de cette pandémie. On est pleinement conscient. Nous avions eu une jeune fille qui a travaillé pour nous durant l'été, qui veut dire de mars à juillet, elle n'avait pas mis les pieds à l'extérieur de chez elle. Parce qu'elle avait ses craintes, ses parents. C'était quand même une jeune fille qui était très... qui bougeait. C'était une de nos profs de danse. Mais ça a pris des semaines avant de la revoir un peu. Ne serait-ce que l'ombre de qu'est-ce qu'elle a été. Non pas seulement moralement, psychologiquement, mais physiquement. Si le jeune ne bouge pas, eh bien, cet isolement va les affecter plus fort qu'on le pense.
Ce même isolement n'est pas unique aux adolescents. Les personnes âgées, bloquées dans leur maison ou dans des résidences pour aînés, ont aussi été frappées de plein fouet, selon l'anthropologue médical Julien Simard.
L'isolement social à Montréal, encore une carte produite par la DSP, mais en 2017, Ça cumule quatre facteurs d'isolement, donc ça reflète peut-être pas la réalité socio-anthropologique sur le terrain, mais c'est quand même intéressant. C'est la proportion de personnes vivant seules avec une incapacité sous la mesure de faible revenu, qui est environ 22 500 par année, et proportion de personnes de 80 ans et plus, et proportion avec troubles de l'humeur et de l'anxiété. Donc, on se retrouve avec des quartiers comme Montréal-Nord, Rosemont, Hochelaga, Petite-Patrie, Saint-Laurent, Saint-Henri, où il y aurait le plus d'isolement des personnes âgées. Donc, il y a 20 % des aînés à Montréal qui ne peuvent pas demander des petits services à leurs voisins parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, on a un immense problème d'isolement social au Québec.
Si de nombreuses personnes se sont retrouvées complètement seules pendant le confinement, des centaines d'autres ont dû relever leurs manches et aller travailler. Ce sont des travailleurs dits « essentiels » qui doivent absolument se déplacer. C'est un phénomène que le géographe Sébastien Rioux appelle la mobilité forcée.
Ce que ça veut dire, c'est que les gens, dans un contexte comme celui-là, où les institutions ne permettent pas aux gens de se prémunir contre les risques ou l'exposition, c'est-à-dire de diminuer même les facteurs de risque, les gens sont obligés de sortir de la maison, aller travailler, s'exposer au virus. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'ils l'ont contracté, ils l'ont ramené à la maison. Dans une perspective, comme vous parliez, d'un nombre de personnes par logement relativement plus élevé que dans d'autres quartiers, mais aussi dans une densité de population qui est plus élevée. Donc, vous avez justement encore là un marché du travail qui force la mobilité, mais dans ce cas-ci, la mobilité devient elle-même un vecteur de transmission, justement, entre les individus, qui, eux, les travailleurs, travailleuses de Montréal-Nord, on fait des généralités, là, c'est pas tout le monde, mais là, une grande proportion, n'avaient pas le choix que de sortir de la maison pour aller travailler. Le télétravail n'était tout simplement même pas une option.
On revient donc essentiellement à la lutte contre la pauvreté. Pour Sébastien Rioux, c'est le facteur de risque principal.
Il y a eu plusieurs cas au début, pendant la première vague, où est-ce que, puis ça en dit long là, sur des gens à Montréal-Nord qui ne consultaient pas, pas parce qu'ils ne voulaient pas consulter, mais parce qu'ils comprenaient très bien que s'il y avait un test positif, ils se faisaient mettre en quarantaine, et se faire mettre en quarantaine pendant deux semaines, c'est perdre deux semaines de salaire. Et deux semaines de salaire pour quelqu'un qui est pauvre, c'est essentiellement l'entièreté de vitalité financière du ménage qui part. Vous allez devoir recourir à la carte de crédit, aux dettes pour être capable d'arriver. Et ça va vous suivre pendant très longtemps. Donc, il y a des gens qui le cachaient au début, puis c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible, cachaient précisément pour ne pas avoir de perte de revenus. Ils comprenaient très bien qu'ils étaient exposés au risque en allant travailler, mais ne pouvaient pas se permettre d'arrêter de travailler. Donc ça, c'est, selon moi, c'est déjà assez exceptionnel comme situation. Ça en dit long sur la genre de mobilité forcée, où est-ce que ces gens-là n'ont pas le choix d'aller travailler et de s'exposer. Et en fait, si jamais ils sont de bons citoyens, ils doivent rapporter en fait les problèmes de santé qu'ils pourraient avoir parce qu'ils ont contracté le virus, vont souffrir économiquement de ça.
Toutefois, ça prend une certaine volonté politique de la part des différents paliers gouvernementaux. Christine Black.
Il y a vraiment un lien de cause à effet, c'est-à-dire qu'en ce moment, le fait que des quartiers soient plus pauvres, soient plus défavorisés, aient accès à moins de ressources. Puis là, on ne parle pas juste des ressources financières. Parfois, c'est, comme je le disais, avoir accès à des espaces verts, avoir accès à des gymnases pour faire du sport, avoir accès à tout, fait en sorte que a des répercussions à ce moment-là dans des crises comme on vit en ce moment. Puis au final, le gouvernement, ça coûte cher au gouvernement de devoir naviguer dans cet environnement-là parce que il faut qu'ils investissent plus massivement tout d'un coup, puis les effets peuvent prendre plus de temps. On le sait, les effets sur en développement social prennent 5, 10, 15, 20 ans parfois avant vraiment de se faire sentir. Donc, actuellement, on doit travailler pour le moyen-long terme, mais en même temps, ne pas perdre de vue le court terme parce que les gens ont des besoins actuellement aussi.
Les ressources devraient être là pour faire en sorte que ce soit une pandémie ou pas, on soit capable, pareil comme les hôpitaux, d'avoir du monde qui est accessible pour quand il y a une pandémie, pas quand il serait dépassé par des événements comme il y a eu.